13h30. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
La marche de l'histoire, nous étions à Charlotte, États-Unis, dans ce journal. Vous restez aux États-Unis.
Hein. Ben oui, les excès policiers répétés, ça pose dans toute sa complexité la question de la présence des Noirs aux États-Unis. On va revenir sur un dossier important en 1971.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
La mutinerie des prisonniers noirs d'Attica.
Entre le besoin de sécurité et le souci de justice, l'explosion d'Attica a révélé brutalement les dangers secrets des prisons américaines. La loi, l'ordre, la sécurité, une revendication majeure des Américains quand l'indice de la criminalité monte chaque année.
En 1971, Nixon est président des États-Unis depuis un peu plus de 2 ans. Nelson Rockefeller, un autre républicain gouverneur quasi perpétuel de l'État de New York. Les prisonniers d'Attica, quasi tous noirs ou portoricains, déclenchent une révolte et prennent en otage une cinquantaine de gardiens, tous blancs, d'origine modeste. Leurs revendications sont en apparence d'ordre matériel. Il s'agit d'abord de la nourriture, des toilettes, des douches. Mais le moment se situe à l'apogée d'une longue période de tensions extrêmes dans le pays. La guerre du Vietnam n'en finit pas. Le mouvement des droits civiques, lui, a débouché sur une politique de discrimination positive, mais aussi à sa frange sur la création d'un mouvement révolutionnaire. 2 semaines avant la mutinerie d'Attica, l'une des figures les plus symboliques des Black Panthers, George Jackson, vient d'être abattu dans son pénitencier à l'autre bout du pays. Des journalistes et des observateurs ayant été requis par les mutins, il se trouve que l'affaire d'Attica est suivie en direct par le pays 4 jours durant. L'opinion est partagée, on vient de l'entendre dans le journal télévisé de l'époque en France, entre la pitié pour les otages, appelés sans doute à devenir des victimes, et aussi la sidération devant la détermination des détenus, ces hommes qui lèvent le poing face aux objectifs. Rappelle bien sûr la photo devenue familière des athlètes noirs sur le podium des Jeux Olympiques de 68, mais ils vont plus loin. Qui sont-ils donc, ces êtres qui ne sont pas de la même espèce tranquille que nous et qui sont prêts à mourir pour une cause ? À l'époque, on n'abuse pas encore du mot de radicalisation, mais c'est la même interrogation qu'aujourd'hui qui surgit déjà. Comment disait Genet, supporter sans nuance des Panthères noirs, mais qui n'avait pas toujours tort, l'homme qui accepte d'être tué pour les idées qu'il défend est devenu si rare.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Philippe Artière, bonjour.
Bonjour.
C'est un sujet toujours marquant aux États-Unis. On aura l'occasion de parler d'un livre qui vient de sortir, le premier livre d'histoire sur Attica. Et vous, vous êtes commissaire associé d'une exposition au point du jour dans la bonne ville de Cherbourg, la ville de Bernard Cazeneuve. Une exposition sur Attica.
Oui, une exposition sur Attica parce que probablement, dans l'histoire des prisons américaines, Attica constitue un événement en lien avec l'histoire des États-Unis. Un des observateurs dira, au fond, Attica et le massacre, puisque il finit par un massacre, hein, 43 morts. Ce massacre est l'acte le plus violent depuis la guerre civile américaine.
Enfin, c'est un point d'inflexion important. Je voudrais qu'on décrive d'abord Attica. Alors, votre maître, vous avez travaillé sur le groupe d'information des prisons qu'il avait fondé en France à cette époque-là. Michel Foucault en a fait une description parce qu'il a visité Attica. Il ne pouvait pas visiter les prisons françaises, mais il a visité Attica.
Oui, il visite Attica au printemps 72, c'est-à-dire à peu près six mois, après la mutinerie.
C'est Disneyland, dit-il.
Oui, alors la vision de
la façade.
La vision de Foucault est d'abord architecturale et elle est assez symptomatique de cette manière dont les visiteurs français depuis Tocqueville ont regardé les prisons américaines, c'est-à-dire que d'abord on s'intéresse à comment sont construites ces prisons. Tocqueville s'intéresse beaucoup à la fameuse prison de Philadelphie.
Tocqueville a fait une enquête avec Beaumont dans les années 1830 sur le système pénitentiaire américain. Oui.
Voilà. Et Foucault, lui, vient bien après et bien après d'autres visiteurs. Et c'est vrai que l'influence des prisons américaines sur les prisons françaises, je dirais, est à la fois la prison américaine sert de modèle pour la prison, les prisons européennes, et puis aussi de repoussoir.
Alors, ce sont des cellules. Cellule individuelle, dirait le garde des Sceaux, hein, avec trois murs et une grille, des cellules étroites. Et les prisonniers posent, je le disais, des revendications d'abord matérielles, disant les traiter comme des bêtes dans cette grande machinerie dont parlait Foucault.
Alors effectivement, ce sont des cellules individuelles, qui n'ont pas du tout le même aspect que qu'en France, y compris l'encellulement individuel en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte, il y a des grilles. Il n'y a pas d'œilleton, mais le regard du surveillant peut entièrement entrer dans l'espace où est enfermé le détenu. Et par ailleurs, il y a des réfectoires. Il y a beaucoup de circulation. Donc tous les matins, et c'est comme ça que la mutinerie va éclater. Bien tous les matins, il y a des compagnies de détenus qui vont au réfectoire et c'est à l'occasion d'un de ces mouvements
que le 9 septembre 71, ils se saisissent d'une cinquantaine d'otages, les gardiens d'une cour. Et sont convoqués, alors c'est ça la grande originalité, parce qu'elles sont légion, les mutineries dans les prisons américaines, mais pas nécessairement très connues, des journalistes et des observateurs.
Oui, alors les mutineries aux États-Unis sont courantes. Attica est d'ailleurs née d'une mutinerie, puisqu'on a décidé de construire au début des années 30 cette immense prison, hein, je l'ai pas dit, mais c'est quand même 2200 détenus. Qui sont là et 1000 détenus qui se soulèvent. Et ces 1000 détenus qui se soulèvent très rapidement occupent la cour D, une des quatre cours, et vont avoir auprès de l'administration pénitentiaire de l'État de New York, représentée par Roosevelt, qui est plutôt un progressiste, ils vont avoir une revendication qui est d'avoir des observateurs extérieurs, Citizen Observers, et une équipe de journalistes télévisés.
Du New York Times aussi. Deux films, vous organiserez à Cherbourg un festival des films liés à Attica, dont voici les extraits. Le premier, c'est un téléfilm de Chomsky, Marvin Chomsky, de 1974, et puis l'autre, un documentaire de Cindy Firestone.
Vous avez quand même tous commis un crime, monsieur. Et vous vous arrêtez sur...
Non, j'ai commis un crime. On m'a pris, j'ai été jugé, et on m'amène ici. Je paie ma dette à la société. Bien, tout ça, c'est normal, je ne me plains pas du tout. Mais depuis qu'on m'a mis ici, les gardiens n'arrêtent pas de m'en faire baver. Ils nous frappent pour le moindre problème. Ils nous mettent au trou pour la moindre raison, et on ne peut rien faire. La bouffe est lamentable. On gagne 25 cents pour une journée entière de travail. Et je ne vous parle pas des insultes. Ils n'ont pas le droit de faire ça.
Je veux mes frères que nous nous rassemblions, car nous sommes ensemble ici. Les hommes ici sont traités comme des chiens et nous allons obtenir ce que nous voulons ou nous allons mourir en essayant. Nous ne prenons pas la violence. Nous prenons la communication et la compréhension.
Alors il y a des délégués qui sont élus. Quelle est la place de l'horizon révolutionnaire? On parlait, il faut que vous en disiez un mot supplémentaire, de l'assassinat de George Jackson peu de jours auparavant dans son pénitencier en Californie.
Alors, l'assassinat de Jackson, c'est un déclencheur dans les prisons américaines, puisque à Attica, le lendemain, il y aura donc le 22 août, il y a un Jackson Day, où les prisonniers descendent avec un brassard noir et marchent en silence, et ne petit-déjeune pas ce matin-là.
Jackson, c'est un symbole pour les Panthères Noires. Il devait, au moment où il a été abattu, être transféré pour son procès. Il était accusé, disait-il, injustement, du meurtre d'un gardien.
Alors, sur cette idée, quand même, de caractère révolutionnaire, il y a quelque chose qui est quasiment de l'ordre physique, d'un soulèvement physique face à l'intolérable de Marcuse, qui est le directeur de l'établissement et qui les traite, comme ils le disent dans le manifeste, comme des bêtes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que vous l'avez rappelé au début, nous sommes dans un contexte de guerre du Vietnam. Donc de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes noirs américains qui partent faire la guerre et qui partent faire la guerre contre les Vietnamiens. Cette tension entre d'un côté un peuple qui est opprimé dans les prisons à l'intérieur et qui est je dirais envoyé au champ de bataille où beaucoup d'ailleurs sombres dans des situations de très grande perplexité, ils se demandent ce qu'ils sont. On connaît l'usage des drogues là-bas, c'est très très fort.
En Amérique, le mouvement noir, il est aussi divisé. Et dans la prison d'Attica, on va ne pas avoir de Black Panthers stricto sensu, mais on va avoir des Black Muslims.
Oui,
des militants dont on dirait aujourd'hui qu'ils sont.
Bon, alors je crois que
la
comparaison ne tient pas dans la mesure où le mouvement des Black Muslims est issu en fait de Nation of Islam, qui est une organisation qui naît dans les années 20 aux États-Unis, donc c'est une longue histoire, et que de fait, à côté de ce qu'on a souvent mis en avant, c'est-à-dire toute la tendance anglicane. Noir et dans les marches, dans les grandes marches, Martin Luther King, ouais. Il y a de fait un certain nombre de Noirs américains qui adhèrent à l'islam. Mohamed Ali en est un exemple majeur, puisqu'il s'appelait Cassius Clay, hein, souvenons-nous de cela.
Mais dans le service d'ordre des mutins, on parlait des délégués élus, il y a des Black Muslims.
Tout à fait. C'est-à-dire que ces Black Muslims organisent la vie en détention.
Mais c'est un leader symbolique des Black Panthers qui est invité parmi les observateurs. Et si on en croit le film de Marvin Chomsky, il aurait tenu aux prisonniers ce langage.
Approchez-vous, venez, approchez-vous! Les frères, je suis venu ici. Soyez bref, m'a-t-on dit. Mais cette fois, il me semble vraiment que quelque chose va enfin changer. Ce que vous avez fait là est une grande action. Mais les 28 concessions qui vous ont été accordées, je les ai lues. Vous allez les entendre. Et ensuite, vous allez y réfléchir. Parce qu'en fait, c'est vous, et vous uniquement, qui pouvez décider de ce qu'il y a. Vous êtes maître de vos décisions.
Il est fou de dire ça.
Il a dit qu'il les laisserait libres de faire ce qu'il voulait.
Il ne serait pas juste que les Black Panthers vous influencent dans votre future action. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le pouvoir au peuple.
Au fond, Bobby Seale, qui est devenu un vénérable professeur d'université, se livre maintenant à des activités d'éducation collective. Il était déjà implicitement sur cette ligne.
Oui, enfin, ce que l'on dira ensuite de l'intervention de Bobby Seale, c'est probablement qu'elle a pesé dans le fait que les mutins refusent ces 28 propositions acceptées par l'administration pénitentiaire et qui sont, encore une fois, portées par ces observateurs dont il faut dire un mot, qui sont à la fois des journalistes mais aussi des gens comme ce grand avocat qui est William Kunstler, qui porte toutes les causes de ces années 60-70, mais aussi par Tom Vicker, l'éditorialiste du New York Times, qui n'est pas un gauchiste, qui n'est pas un activiste nord-américain. Et ce travail, c'est ça qui est vraiment passionnant dans la mutinerie d'Attica, et je crois ce qui nous a beaucoup intéressé avec le point du jour à Cherbourg, c'était que c'est la société civile qui rentre dans la détention.
Et puis au point du jour à Cherbourg, nous recommandons cette exposition et faites la plus grande place à l'histoire artistique d'Attica, puisque après Attica, beaucoup de photographies, d'œuvres seront mises au point. Et puis beaucoup de musique aussi sera interprétée. Alors vous parlez de John Lennon et de Yoko Ono, mais nous on a choisi Archiship, Attica Blues. Hein, ça, la grand-mère d'Archiship lui demandait parfois « Quand est-ce que tu fais quelque chose que je puisse comprendre ?» Là, je pense qu'elle a tout à fait compris.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Philippe Artière, au point du jour à Cherbourg, une exposition sur Attica, la révolte des prisonniers de 1971, Cherbourg, ville transatlantique. L'exposition ira ensuite au Canada. Beaucoup d'artistes, c'est sur eux que souvent vous mettez l'accent dans cette exposition, sont concernés.
Oui, beaucoup d'artistes vont s'engouffrer dans cette lutte et aux côtés des Attica Brothers. Ils vont le faire doublement, c'est-à-dire qu'ils vont le faire en soutenant un comité de juristes dont Elizabeth Fink est une des principales animatrices. Hein, elle se définissait, elle est morte à l'automne dernier, comme une communiste juive de Brooklyn. Et c'est elle qui a porté juridiquement Attica dans les différents tribunaux pour faire reconnaître par l'État de New York ce massacre. Parallèlement, ce groupe de juristes travaille beaucoup avec des artistes de jazz qui ont longue tradition d'engagement, y compris pendant la guerre du Vietnam, mais Charlie Mingus, Bob Dylan écrira sur Jackson, etc. Yoko Ono, John Lennon, et ce fameux album qui va être extraordinairement popularisé aussi la cause d'Attica, Attica Blues. Mais des peintres aussi, Stella. Des photographes, Cornel Capa, tout un ensemble de gens vont mettre leur énergie et leur art à ce service-là. J'y insiste, Jean Lebrun, parce que je ne vois pas une telle situation aujourd'hui. Ce sont d'immenses artistes comme Stella, et à l'époque un très célèbre peintre, le MoMA, est envahi par des manifestations sur Attica. Il faut voir le centre Georges Pompidou, aujourd'hui le MoMA envahi par des artistes qui prendraient la défense de ce qui se passe autour de Charlottesville, par exemple.
Et il y a aussi le texte, vous avez parlé de l'ex Cassius Clay Mohamed Ali, du plus célèbre boxeur des temps contemporains.
Better far from all I see, to die fighting to be free,
What more 15 in could be?
De tout ce que je vois, mieux vaut rester loin et tomber pour sa liberté les armes à la main. N'est-ce pas là la plus appropriée des fins?
Better surely than in some bed where in broken health I'm led, lingering until I'm dead.
Plutôt et sans hésitation que finir alité sous le prétexte frauduleux d'être soigné et attendre, attendre puis crever.
Better than with prayers and pleas are in the clutch of some disease, wasting slowly by degrees.
Plutôt que de prier et de geindre ou de laisser la maladie m'atteindre, jusqu'à progressivement s'éteindre.
Better than of heart attack are some dose of drug I lack. Let me die by being black.
Plutôt que d'une crise cardiaque ou de manque à cause du crack, laissez-moi mourir d'être black.
Une autre grande différence avec aujourd'hui le Centre Georges Pompidou, on ne le voit pas dans la situation apocalyptique que vous venez de décrire, mais aujourd'hui, que des gens soient prêts à être tués pour une cause, c'est presque considéré comme une maladie mentale.
Oui, alors c'est vrai que ce qui se passe à Attica, c'est surtout que il y a une visibilité très grande de ces points levés. Vous avez dit cette image de Schulz qui est une image qui a fait le tour du monde, qui a été reprise aussi et d'abord par tout un ensemble de nouvelles agences de presse. Hein, c'est le moment où la presse s'y diversifie et n'est plus seulement officielle. Et là, cette image et en même temps cette incroyable détermination non pas forcément à mourir, parce que jusqu'au bout, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a duré 4 jours, on pense qu'il va y avoir une solution. Là, il y a un courage qui devient, encore une fois, symboliquement très fort.
Tom Vickers a essayé de convaincre le gouverneur Nelson Rockefeller de venir. Le gouverneur Nelson Rockefeller, républicain, même s'il est anti-Nixon, a refusé, a donné l'ordre de l'assaut le 14 septembre. Le nombre des morts est discuté. Donc ce grand livre qui vient de paraître de près de 600 pages aux États-Unis, Ivor Ann Thompson, professeur de Michigan, donne une estimation plus faible que la vôtre. Elle dit autour de 30 morts. Je crois même qu'elle dit 29. Mais vous, vous dites 43. Mais on va pas discuter. Peu importe si je puis dire. C'est l'événement symbolique qui a le plus frappé les consciences. Je dis le nombre de morts chez les prisonniers. Il y a eu 9 morts chez les otages.
C'est ça. C'est-à-dire que...
Et elle soutient que ces otages n'ont pas été égorgés comme les médias l'ont dit le lendemain par les prisonniers, mais qu'ils ont été tués par balles.
Oui, alors ce livre est important parce que ce livre est le premier à faire histoire autour d'Attica. Ce qu'on a vu et à travers un certain nombre de travaux de chercheurs qui seront rassemblés dans un volume au printemps, c'est que ce massacre, il est d'une très grande violence puisque les otages ont été tués dans un mode opératoire qui est un mode quasiment
militaire.
Et c'est ça qui va beaucoup choquer. Et les familles, y compris des otages, vont se solidariser à certains égards avec les Attica Brothers.
La réaction au journal télévisé en France, Emmanuel Delataille.
Aujourd'hui, Attica enterre ses morts, ses gardiens, un par un. Vous le savez, c'est la mort de ces 9 gardiens otages, autopsiés et réautopsiés, qui déchaînent polémiques et manifestations depuis qu'il a été révélé qu'ils n'avaient pas été égorgés par les mutins, première version officielle justifiant l'assaut, mais tués par les balles de la police. Première cible, bien sûr, Nelson Rockefeller. On accuse tout ensemble le gouverneur milliardaire d'avoir sacrifié sans pitié les gardiens, de n'avoir pas tiré plus tôt ou négocié plus tard, et en tout cas d'avoir caché la vérité. Mais au-delà, en regardant ces images à la télévision, c'est toute la politique de la loi et l'ordre, tout le système que l'Amérique soumet au procès de ses propres contradictions. Une bonne majorité, effrayée par la criminalité, pense que c'est la faute d'une justice jugée toujours trop molle pour les criminels. Le vice-président Agnew dénonce ce libéralisme pervers qui encourage la révolte en transformant les criminels en victimes de la société, et le pasteur Billy Graham ajoute « En Amérique, ce sont les criminels qui tiennent les rues, et les honnêtes gens qui doivent se barricader. En face, on réplique à longueur de colonne que la tuerie d'Attica n'est que le symbole d'une Amérique qui accule pauvres et noirs au désespoir et à la violence avant de les massacrer froidement. Dans le silence de ces funérailles où les gardiens pleurent leur mort, tandis que les familles des prisonniers tués attendent encore les informations, l'Amérique a senti se réveiller ses hantises, ses divisions, masquées par le calme apparent des ghettos et des camps.
Les conflits d'interprétation vont être multiples. Sur les faits d'abord, est-ce que les conflits d'interprétation seront résolus par le travail de la commission d'enquête ?
Oui, très vite, dès la fin septembre, Rockefeller nomme une commission indépendante qui est dirigée par McKay, qui est un juriste de l'université de New York. Et ce juriste va mettre en place un dispositif absolument inédit d'enquête avec des étudiants, avec l'audition de 400 prisonniers, avec l'audition aussi de l'ensemble des personnels pénitentiaires, avec Cornel Kappa va faire des photos pour cette commission. Donc, sur les faits, il y a rien de véritablement caché. Ce qu'on comprend, c'est que, vous l'avez dit, c'est que Rockefeller refusera de venir à Attica. Pour lui, c'était baisser la garde. Et Nixon le félicitera. Il dira « good job ».
Alors que Rockefeller avait été l'adversaire de Nixon, voilà, pour les primaires républicaines.
Mais cette enquête McKay va quand même largement montrer que cette mutinerie, elle est complètement, elle est le symbole de la manière dont les prisons américaines fonctionnent.
Oui, mais attendez, là, j'aimerais que vous alliez plus loin, Philippe Artière. Conflit d'interprétation sur les conséquences à tirer, je parle de l'opinion publique. C'était dans l'État de New York qui avait peut-être la politique carcérale la plus libérale. C'était l'époque où le taux d'incarcération était le plus faible d'après-guerre aux États-Unis. 20 ans plus tard, il a quadruplé. Et c'est peut-être la conséquence d'Attica, ça aussi.
Alors peut-être, en tout cas c'est vrai que Oswald, quand il prend le
directeur
poste
de l'administration pénitentiaire de l'État,
quand il prend ses responsabilités, eh bien il va largement développer une politique de mise en liberté surveillée. Parce qu'Attica, on l'a pas dit, Attica se situe complètement très éloigné de Manhattan et du Bronx et de New York. Donc pour les familles, pour venir visiter, c'est des frais énormes. Il faut dormir sur place, c'est très compliqué. Donc il y a cet éloignement. Et puis pour Oswald, il s'agit de ne plus parler de prison, mais de centre de correction.
Oui, mais d'accord, mais depuis la situation s'est aggravée. Il y a une sorte de fuite en avant carcérale. On est à 1% peut-être de la population américaine qui est en prison aujourd'hui.
Le grand tournant des prisons américaines, c'est les années Reagan. Hein. C'est ce moment où les prisons deviennent aussi, ce qui n'est pas le cas tout à fait à Attica, même s'il y a des ateliers, deviennent aussi des lieux de production. Des lieux de production, on sait que des compagnies aériennes font travailler des détenus, encore aujourd'hui, tout un ensemble de grosses boîtes américaines. Loïc Vacan l'a bien montré dans ses travaux, participent, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'archipel pénitentiaire américain, un archipel qui, souvenons-nous, en 71, est à la fois un archipel constitué de fermes dans le sud des États-Unis, avec les fameuses photos de Danny Lyon, et puis d'un autre côté, c'est pénitencier dans lequel les détenus sont des ouvriers.
Bon, en disant archipel, vous n'êtes pas allé trop loin. Angela Davis a parlé des goulags de la démocratie. Une dernière question, est-ce qu'il y a une inflexion avec l'époque Obama ? Parce qu'à partir de 2014, pour la première fois, il y a une baisse du nombre des prisonniers, pour la première fois depuis très longtemps.
Alors, comme on sait, les politiques pénitentiaires sont rarement calquées sur les agendas politiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément directement une conséquence. Néanmoins, Obama, et je dirais comme Giscard d'Estaing en 60. 15 rentre en détention. Il entre en détention et donc il reconnaît aussi comme sujet Obama le détenu.
Merci à vous Philippe Artière. L'exposition dont vous êtes le commissaire associé, c'est au Point du Jour à Cherbourg. Et puis je signale aussi le livre Black America aux éditions de La Découverte de votre collègue Madame Roland Diamond. Demain, nous aurons comme témoin l'ancien directeur de Radio Béton. Radio Béton, c'est une radio dont Éric Morin, qui est à la technique aujourd'hui aux côtés de Valérie Estaraï, voudrait que je donne la fréquence. Non, non, elle sera donnée très très souvent demain. C'est à Tours, Radio Béton. Et chez vous, Mathieu Bidard?
On va parler des espèces menacées, Jean, dans le monde animal et végétal, et nous verrons que le constat n'est pas brillant dans La Tête au Carré.
Le générique n'est pas suffisant pour la marche de l'histoire. Je n'ai pas dit que c'était Mathilde Novelle qui avait préparé cette émission.